En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Marc Fontecave, chimiste, membre de l'Académie des sciences, s'exprime dans cette conférence face à un public de lycéens pour expliquer les enjeux des ressources énergétiques dans les années à venir, comment notamment résoudre cette équation entre la population toujours plus gourmande en énergie et en expansion face à l'épuisement de nos ressources. À l'issue de son exposé, Marc Fontecave aborde plus particulièrement le rôle que l'hydrogène pourrait jouer en remplacement des énergies fossiles. On écoute sans plus tarder Marc Fontecave dans cette conférence donnée à l'Institut de France dans le cadre de la Fête de la Science 2011. On l'écoute.
Merci et bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être là avec vous pour vous parler d'un problème qui est éminemment important. Je considère, en tout cas pour ce qui me concerne, que l'énergie est peut-être le grand problème du XXIe siècle. On a toute une liste de problèmes à l'échelle de la planète, chacun a le sien. Moi, je considère que celui-là est très très important et ça me conduit à développer tout un tas de projets scientifiques pour traiter un certain nombre de ces problèmes. Alors, c'est un champ immense, je ne pourrais pas vous donner dans le détail l'ensemble des problématiques qui sont relatives à l'énergie. Il y en a des tas, je vais parler des choses que je connais mieux, mais je vais essayer quand même de vous donner une vision de problématique. C'est l'année internationale de la chimie et effectivement c'est l'occasion de dire que cette discipline, et là c'est pas parce que je suis chimiste, d'ailleurs je ne sais pas très bien ce que je suis parce que en réalité la science aujourd'hui est une science qui se passe aux interfaces entre plusieurs disciplines et dans mon laboratoire il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des biologistes et en général ces gens-là ont même des cultures multiples. Donc on ne sait plus très bien qui on est et si vous voulez... Néanmoins, je pense que la chimie va jouer un rôle majeur dans le développement des nouvelles technologies qui vont répondre à ces problèmes de l'énergie. Et d'une manière générale, j'ai une vraie confiance, même si elle n'est pas bébête et on fait attention, il faut être prudent, mais j'ai une vraie confiance dans la capacité de la science à répondre à un certain nombre de questions qui sont soulevées dans ce contexte énergétique un peu particulier. Ce que je vais faire, c'est rapidement essayer de brosser des choses qu'on connaît de mieux en mieux, mais je vais le faire tout de même. Le contexte énergétique mondial général, je vais parler, parce que c'est clair que vous allez le voir, évidemment, le soleil est la source d'énergie la plus abondante à notre disposition. Je vais parler des biocarburants et je vais parler de l'hydrogène. Il est difficile de faire des prédictions, en particulier en ce qui concerne le futur, et pourtant c'est souvent ce qu'on demande aux scientifiques, aux politiques aussi, enfin à tout un tas de gens, de savoir comment ça va se passer demain. On peut prévoir des choses, mais c'est très compliqué. Alors, excusez-moi, mais je vais essayer de faire simple. Je vais d'ailleurs commencer par des choses très simples. Il y a peut-être des moments où ça sera un peu plus compliqué, je passerai très vite, c'est pas très important. Néanmoins, je vais parler d'énergie, donc on est obligé d'utiliser des unités. Et d'une certaine façon, puisque je vais parler de planète, je vais faire mention d'énormes quantités d'énergie. Donc c'est pour ça que au lieu d'utiliser des 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12, je vais parler en méga, giga, tera. Alors tera, c'est 10 puissance 12. Alors je vais souvent parler en puissance, c'est-à-dire en watts par exemple. Et donc si vous voulez l'énergie correspondante, eh bien il faudra multiplier par le temps pendant lequel cette puissance est développée et on aura des joules. Et des joules, ce sont des unités d'énergie, de la même façon que des kilowattheures. Alors parfois je parlerai de kilowattheures, parfois de joules. Bon, évidemment, vous n'avez pas à prendre par cœur ces conversions, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de toutes sortes d'unités qu'on trouve dans la littérature, dans les médias. C'est pas toujours très simple. On parle parfois de tonnes d'équivalent pétrole, de kilowattheures, de joules, enfin voilà. Alors, pour avoir une petite idée de ce que signifient ces puissances-là, lorsqu'on parle du watt, c'est à peu près la puissance d'un ordinateur. 1000 fois plus, un kilowatt, c'est un grille-pain. 1 mégawatt, c'est à peu près la puissance développée par un avion. Avec 1 gigawatt, on commence à avoir des énergies importantes, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Et le terawatt, bien c'est 1000 fois plus, c'est l'équivalent de 1000 centrales nucléaires. Et c'est à peu près la consommation électrique utilisée par la planète, c'est-à-dire à peu près 10% de la consommation totale. Je vais vous dire que la puissance utilisée par la planète, c'est de l'ordre de 14 terawatts aujourd'hui. Cette carte, vous voyez, elle montre les endroits où il y a de l'électricité, où il y a de la lumière, la nuit. Et évidemment, c'est très important de constater, à une époque où on se pose la question d'économie d'énergie, de gestion plus efficace de l'énergie, de constater que c'est une question qui concerne qu'une petite partie de la planète, parce qu'il y a une énorme partie de la planète où vous voyez, il n'y a pas de lumière. C'est à la fois parce qu'elles sont vides, ces parties, mais aussi il y a des parties qui sont pleines de gens et qui n'ont pas accès à l'électricité, qui pourtant leur permettrait d'améliorer leurs conditions de vie, de santé, d'éducation, etc., etc. Donc pour ces gens-là, la question de réduire la consommation d'énergie, vous comprenez bien qu'elle ne se pose pas. Et effectivement, la tendance, c'est qu'on va vers une augmentation de la consommation totale de l'énergie de la planète. On est à peu près 13-14 terawatts et la prospective nous dit qu'on va à peu près doubler d'ici 2050. Et ces prévisions sont sur la base de croissance économique et d'une augmentation de la population mondiale. Vous savez qu'on est autour de 6,5 milliards d'habitants, on va passer à 9 à 10 milliards d'habitants en 2050. Donc tout ça, et puis il y a un certain nombre de pays qui sont dans une activité économique puissante, qui demandent de la consommation d'énergie. Donc tout ça conduit à cette prévision d'un doublement. En même temps, comme vous allez le voir, nos sources d'énergie sont surtout des sources fossiles, gaz, charbon, pétrole, qui correspondent à peu près à 80% de l'énergie totale. Et comme vous le savez, on commence à considérer que ces sources ne sont pas illimitées. Et certaines approchent de la fin, c'est le cas du pétrole. Quand je dis la fin, à l'échelle de l'humanité, ça peut être 100 ans, 50, 100 ans. Pour d'autres, c'est plutôt 200. Enfin, ces prévisions sont assez difficiles à faire. Il faut faire des analyses des réserves et des ressources. C'est assez compliqué parce qu'elles varient, parce que peut-être on ne nous dit pas tout, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'est clair qu'à un moment donné, il faudra remplacer ces sources d'énergie. Il y a une autre raison pour laquelle on souhaite les remplacer, c'est parce que lorsqu'on les brûle, vous savez, le gaz, le charbon, le pétrole, on produit du CO2, un gaz à effet de serre, et qui peut avoir un impact sur le climat. Je reviendrai sur ce point, et vous voyez que les prévisions, c'est que si on est autour de 380 ppm parties par million dans l'atmosphère de CO2, les prévisions, c'est que dans une vingtaine d'années, 20-25 ans, on sera au-dessus de 550 ppm et en 2050, on sera à 750 si les tendances restent les mêmes. Oui, donc ça, c'est juste pour vous dire quel est l'état de la situation aujourd'hui. Comme vous le voyez en rouge, vous avez ce qu'on veut remplacer, à la fois parce que les quantités sur la Terre sont limitées, c'est donc pétrole, gaz, charbon, et puis aussi donc pour cette question de production de CO2 si on brûle tout ça. Et c'est pour vous donner à peu près la contribution des autres types d'énergie. Et comme vous le voyez, à l'échelle de la planète, le nucléaire ne représente que 6%. Alors la France est dans un état tout à fait particulier, vous le savez. Le nucléaire représentant autour de 17% de l'énergie totale et par contre présentant presque 80% de notre électricité. Donc nous avons fait un choix du nucléaire très tôt et ceci nous conduit à être dans une situation qui est très très différente de la moyenne. Et puis pour le reste, vous voyez, biomasse, énergie renouvelable, hydroélectricité, ce sont des toutes petites quantités. Bon, ce diagramme, je ne vais pas vous le commenter, il vient d'un rapport du GIEC. Il est assez compliqué, mais je vais vous en donner les conclusions. Elles sont assez troublantes. L'idée générale, qui a été développée dans des sommets mondiaux où les représentants des pays développés, des pays émergents se rencontrent pour discuter de ces aspects-là, un sommet tout à fait caractéristique est celui de Copenhague, qui a déclaré qu'on ne pouvait pas se permettre une augmentation de la température de la planète. Personnellement, je ne sais pas ce que veut dire une température de la planète, mais une température de la planète qui augmente de 2 degrés, ça veut dire qu'il faut se limiter à 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Mettons, on peut aller maximum jusqu'à 500 ppm. Alors, voyez, si on fait donc ce calcul qu'on va passer de 13 terawatts à 26, 28 terawatts en 2050, ceci nous permet de mesurer la quantité d'énergie non carbonée qu'il faudrait avoir pour se limiter à 550, 500 ppm. Et on s'aperçoit qu'en 2050, il faudrait qu'on ait à peu près, pour 550 ppm, une dizaine de terawatts, et pour 450 ppm, c'est-à-dire la limite de 2 degrés, une vingtaine de terawatts, sur les 28. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il faut que, en gros, la moitié de l'énergie future soit non carbonée, et la moitié, puisque on double de maintenant jusqu'à 2050, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit capable, en 2050, de produire l'équivalent de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui à l'échelle de la planète de façon totalement non carbonée. Et donc ça, c'est un défi qui est absolument colossal. Si vous voulez, si on essayait de mesurer ce que ça veut dire, et je vais juste faire un petit calcul en faisant l'hypothèse qu'on le ferait par du nucléaire, ce qui est évidemment totalement exclu, mais c'est pour donner l'ordre de grandeur des investissements. Eh bien, vous voyez, si pour, par exemple, 10 terawatts, vous avez vu une centrale nucléaire, c'est 1 giga, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on construise d'ici 2050 10 000 centrales nucléaires. Il y en a 450 à peu près sur la Terre. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on construise une centrale nucléaire tous les deux jours. D'abord, on ne fait pas ça, premièrement. De toute façon, on n'y arriverait jamais. Et c'est pour vous donner l'ampleur du problème. Donc, c'est quelque chose qui est très délicat parce que ça veut dire que probablement, on sera au-dessus de cette limite de 500 ppm. Et là, eh bien, ça peut être grave si les spécialistes du climat qui nous prévoient un effet très fort d'augmentation de température sont corrects. Et il faut parfois espérer qu'ils ont tort, parce que personnellement, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à se limiter à 450-500 ppm. Alors évidemment, la question c'est, on va quand même y travailler, on est obligé d'y travailler. Et je vais vous montrer un peu comment on peut y travailler et comment les scientifiques peuvent aborder certaines de ces questions. Et je vais parler évidemment du soleil. Donc si on doit remplacer ces énergies fossiles, gaz, charbon, par autre chose, on ne va pas le remplacer par du nucléaire, on va le remplacer par ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Et quand on regarde le potentiel des sources d'énergie renouvelables aujourd'hui disponibles, c'est-à-dire hydroélectricité, courant et marée, énergie éolienne, énergie géothermique, solaire, sur un diagramme comme ça, où il y a une échelle logarithmique, eh bien on s'aperçoit que c'est véritablement le soleil qui est la source d'énergie la plus intéressante. Vous avez ici en comparaison la consommation actuelle, ici c'est 13 TWh, 26 TWh, voyez le double serait là, hein, parce que c'est logarithmique. Et vous voyez que les autres énergies, évidemment, il faut les développer, mais n'ont pas le potentiel du solaire. L'hydroélectricité, il y a déjà beaucoup de sites utilisés, et il n'y a pas une expansion terrible à attendre. Donc le soleil, en effet, le soleil, vous voyez, envoie sur la Terre 90 000 TWh. Donc en comparaison de ce qu'on utilise, c'est très supérieur. Et puis ce soleil va être actif encore quelques milliards d'années. Donc on peut appeler ça une énergie renouvelable. Alors le soleil, très bien, en termes de quantité, c'est parfait. Par contre, il y a des problèmes. D'une part, l'énergie solaire est une énergie diluée, trop diluée. C'est de l'ordre en moyenne de 170 watts par mètre carré. Il faut savoir que les carburants fossiles, pétrole, gaz, charbon, c'est plutôt de l'ordre de 10 puissances, c'est-à-dire 1000 ou 10 000 watts par mètre carré. Donc de ce point de vue-là, l'énergie est beaucoup mieux concentrée dans les énergies fossiles, pas tellement dans le soleil. Donc il va y avoir un problème de concentration de cette énergie. Et puis le deuxième problème, c'est que cette énergie solaire, elle est intermittente. Vous le savez, aujourd'hui, elle est pas terrible. Il y a des nuages et puis à 8 heures du soir, elle sera totalement nulle puisque c'est la nuit. Donc il faut aussi trouver des moyens non seulement de concentrer mais aussi de stocker l'énergie solaire qui est en excès au moment où elle arrive pour pouvoir l'utiliser quand il n'y a plus d'énergie solaire, c'est-à-dire la nuit ou quand il y a beaucoup de nuages. Donc c'est deux gros problèmes et ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire il ne faut pas dire solaire, solaire, solaire. Il y a tout un tas de problèmes technologiques qui sont liés à ces nécessités de concentration et de stockage. Alors un premier domaine, vous le savez, mais là je le cite parce que c'est un domaine dans lequel les chimistes jouent un rôle extrêmement important parce que dans ce domaine-là, l'avancée des technologies dépend en partie de la découverte de nouveaux matériaux. C'est le domaine du photovoltaïque. Donc vous savez, peut-être certains d'entre vous ont des panneaux photovoltaïques sur leur maison. La technologie photovoltaïque, c'est une technologie que je ne détaille pas sur le plan technologique, scientifique, mais qui permet de convertir de l'énergie solaire en énergie électrique. Alors, pour le moment, c'est encore un peu cher, et pour que ça soit compétitif, il faut probablement, ici j'ai mis un facteur 10, mais il faut probablement diminuer le coût du photovoltaïque par un facteur 5, et ça passe par tout un tas de développements de matériaux semi-conducteurs. Alors aujourd'hui, on est plutôt avec du silicium mono ou polycristallin, mais on est en train de développer des technologies qu'on appelle couches minces, à partir de matériaux à base de cadmium, de silicium amorphe, de cuivre, de gallium, de sélénium, et également avec des polymères. Et donc tout ça, si vous voulez, ce sont des matériaux que les chimistes sont en train de mettre en œuvre et de rendre de plus en plus efficaces. Mais néanmoins, on voit par exemple, si vous regardez une carte des États-Unis, on pourrait faire la même représentation avec la France. Bon, les États-Unis, c'est 3,3 TWh. D'abord, vous constaterez que les États-Unis consomment une partie énorme des 13-14 TWh de la planète. Mais voyez que si on mettait des panneaux photovoltaïques avec les moyens qu'on a sur une surface qui est représentée par ce rectangle, qui est à peu près la taille d'un petit État, pratiquement, ça permet de fournir l'énergie totale des États-Unis. Alors, ça paraît peu, et en même temps, c'est beaucoup. Il faudrait que les Américains acceptent de consacrer un État, donc de virer tout le monde de cet État et de consacrer un État à des panneaux photovoltaïques. C'est purement théorique, mais c'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de ce que ça représente. Là, il y a un problème de stockage, parce que vous savez que l'électricité, quand on la consomme pas, on la perd. Et donc là, je l'ai dit, il faut stocker. Alors, un deuxième domaine que j'évoque, qui est très très important, c'est le domaine des batteries, parce que c'est une façon de stocker de l'énergie. Et là, on est encore très très loin du compte sur les capacités de stockage des batteries. Donc il y a énormément de recherches. Et là aussi, c'est vraiment un domaine dans lequel les chimistes interviennent de façon très très importante à nouveau pour proposer des nouveaux matériaux, de nouveaux électrolytes. Et ici, pourquoi il y a un problème avec les batteries? C'est parce que ces batteries, vous voyez, elles ne stockent pas beaucoup d'énergie par unité de masse, de l'ordre de 0,5 mégajoules par kilo. Si on le compare, cette valeur, au carburant liquide, genre pétrole, vous voyez, on est à 50 mégajoules par kilo. C'est 100 fois moins, les batteries. Donc, vous voyez, pour avoir la même quantité d'énergie, eh bien, il faut 100 fois plus de masse. Donc, c'est pour ça que les batteries sont énormes. Ou alors, si elles sont petites, elles ne permettent pas de développer suffisamment d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que sur la question des véhicules électriques, il y a une question de rendre les batteries de plus en plus efficaces et avec des densités énergétiques de plus en plus grandes. Sinon, on va avoir dans les voitures des masses énormes de batteries pour fournir l'énergie nécessaire. Ici, j'en profite pour dire qu'il y a eu des évolutions dans les batteries. On est passé à des batteries au plomb au début du siècle, à des batteries à base de nickel. Et puis après, sont apparues vers la fin des années du siècle dernier des batteries à base de lithium. Et aujourd'hui, c'est essentiellement des batteries, ce qu'on appelle lithium-ion. Alors là aussi, ça soulève un problème parce que le lithium, il n'y en a pas des quantités infinies. Il y en a des grandes quantités dans la mer, mais tellement diluées qu'il est peu probable qu'on arrive à récupérer ce lithium des océans. Et donc, il y a quelques sites privilégiés desquels on sort le lithium. Mais voilà, il y a un problème qu'on commence à se poser. D'ailleurs, c'est un problème général. Je vais en dire un mot parce que c'est très, très important. Il y a un problème général d'accès aux éléments. Le lithium est un des problèmes. Si on développe massivement les batteries pour les véhicules électriques ou pour autre chose, comme forme de stockage de l'énergie, en utilisant la technologie lithium-ion, on va être amené à utiliser des quantités croissantes, massives de lithium et on risque d'être limité de la même façon qu'on est limité aujourd'hui ou bientôt par la disponibilité du pétrole, du gaz, du charbon. Donc remplacer une limitation par une autre, ce n'est pas tout à fait intéressant. Donc là, il y a vraiment des questions. Alors, sur cette question des batteries électriques et du lithium, par exemple, il y a des compagnies comme Veolia, je connais bien puisque je travaille en collaboration avec Veolia. Vous avez entendu parler de Veolia, c'est une entreprise qui s'occupe de déchets. Mais aujourd'hui, on commence à rentrer, c'est vrai pour Veolia, mais c'est vrai pour toutes les sociétés, pour toute la planète au bout du compte. On est en train de rentrer dans une vision qui est d'une certaine façon révolutionnaire, qui est de traiter les déchets non pas en se disant on va les cramer, les brûler, les détruire, les cacher, etc., mais on va les considérer aujourd'hui comme des sources de matériaux et d'éléments. Et donc, on est dans une vision de récupération et de recyclage qui devient de plus en plus important. Et ça, ça va changer complètement notre vision de la gestion des déchets. Et là, typiquement, dans le cas des véhicules électriques et des batteries, des entreprises comme Veolia commencent à s'intéresser à la façon dont on peut récupérer tous les éléments qui sont dans une batterie pour les remettre en circulation. Et c'est le cas en particulier du lithium. Mais cette question-là de recyclage, de récupération de recyclage, va, de mon point de vue, être une stratégie majeure de nos économies et de nos comportements. Et là encore, la chimie va jouer un rôle majeur dans les nouvelles technologies parce qu'on rentre dans tout un tas de technologies de séparation. Et là, les chimistes, avec leurs matériaux, vont permettre de nous fournir des dispositifs qui vont nous séparer les différents éléments d'un mélange très complexe. Alors, je vais dire qu'une façon dont le soleil est stocké sur notre planète, c'est évidemment la biomasse. Et je vais dire un mot de ce phénomène fantastique qui est la photosynthèse et parler de biocarburant. Sur la Terre, l'énergie solaire qui frappe la planète est en partie stockée sous forme de biomasse. Qu'est-ce qu'on appelle la biomasse? Eh bien, c'est tout ce qui est constitué de carbone dans les plantes, dans les animaux, dans les bactéries, dans tous les micro-organismes. Voilà. Alors, je vais beaucoup parler de plantes parce que c'est une quantité majeure de cette biomasse. Eh bien, il faut savoir que lorsque vous avez, je sais pas, quelque chose comme 100 000 terawatts qui nous arrive, vous avez une centaine de terawatts qui est transformée sous forme de biomasse. Donc, vous voyez que ce qui est stocké sous forme de biomasse est très largement supérieur à l'énergie dont on a besoin. Puisque vous vous souvenez, 14 TWh ou en 2050, 26 TWh. Donc là, tout de suite, on pense, eh bien, si on récupérait cette biomasse et qu'on en retirait l'énergie qui est stockée, peut-être qu'on a des solutions. Et donc, c'est tout le domaine de l'utilisation de la biomasse, et en particulier le domaine des biocarburants, qui se développe à partir de cette idée-là. Alors, bon, évidemment, il faut faire attention parce que, vous voyez, 20 terawatts, c'est à peu près 30% des terres de la planète. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas utiliser la très grande partie de la surface de la Terre pour faire des biocarburants. Et donc, ça va être un problème majeur que je vais discuter. Alors, ça, c'est peut-être une des figures les plus compliquées, mais je voudrais juste dire un mot. C'est pas le détail qui est important. Alors, ça, c'est un processus qu'on essaye de comprendre. Les scientifiques sont fascinés par ce phénomène de la photosynthèse. La nature a réussi ce tour de force d'avoir mis au point des molécules qui sont capables de récupérer cette énergie solaire, les photons du soleil, et de convertir cette énergie solaire en électrons énergétiques. Tout ça se passe dans la membrane, et ces électrons ensuite suivent tout un parcours pour aller, d'une certaine façon, pour simplifier, réagir avec du CO2 de l'atmosphère qui a été stocké, et ce faisant, le CO2 est réduit en ce que j'appelle des carburants cellulaires, c'est-à-dire tout un tas de molécules, sucre, lipides, protéines, etc., etc. Donc là, on a un processus magnifique où, en combinant du soleil, de l'eau et du CO2, la nature stocke l'énergie solaire dans des molécules à haute valeur énergétique. Donc les scientifiques essayent de comprendre ça. Alors, notez par ailleurs que ce processus conduit en plus à la production d'oxygène, qui explique l'oxygène que nous avons dans notre atmosphère. Alors, ce processus biologique très complexe, qui est mis en œuvre dans des plantes ou dans des micro-organismes photosynthétiques, j'en ai indiqué ici, des micro-algues ou des cyanobactéries, eh bien, fascine les biologistes et les chimistes depuis longtemps. On essaye de comprendre comment ça marche et comment on pourrait faire pareil. Et c'était le sens un peu du titre de ma conférence, c'est « Est-ce qu'on peut faire de la photosynthèse artificielle ?» Est-ce qu'on peut inventer des dispositifs qui vont nous permettre de prendre de l'eau, du soleil, du CO2 et fournir des hydrocarbures ou des sucres ou des, voilà. Alors, eh bien, les électrons, parfois, dans certains micro-organismes, comme les micro-algues ou les cyanobactéries, sont capables d'être utilisés non pas pour réagir avec le CO2, mais pour réagir avec de l'eau, enfin des protons ou de l'eau, pour produire de l'hydrogène. De sorte que, dans ce processus-là, l'eau est convertie en hydrogène, et je reviendrai sur ce problème de l'hydrogène pour terminer. L'hydrogène, ce n'est évidemment pas des sucres, mais c'est quand même un carburant. Et lorsque vous convertissez de l'eau en hydrogène, vous stockez de l'énergie sous forme d'hydrogène. Cet hydrogène, on peut le brûler et il redonne son énergie, j'en reparlerai. Voilà, donc à partir de là, considérant qu'il y a de l'énergie dans la biomasse, eh bien, il y a toute cette stratégie de mettre en place la filière des biocarburants. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus, mais voilà, je voulais vous dire qu'il y a eu les carburants de première génération. Ce sont des carburants de type éthanol ou des huiles végétales, qu'on peut appeler du biodiesel, qui viennent de betteraves, canne à sucre, blé, maïs, pommes de terre, huile de colza, huile de tournesol. Bon. Là, on récupère directement les sucres ou les huiles qui viennent de ces plantes. Et là, il y a un vrai problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces choses-là sont remises en cause, parce que il y a un bilan énergétique qui est assez peu favorable, il y a un coût environnemental qui est élevé, et surtout, il y a une compétition avec la production alimentaire et les ressources en eau. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser tout ça qui sert à l'alimentation simplement pour faire des carburants. La faim dans le monde, ça existe, il y a des milliards de gens qui sont dans des situations difficiles en termes d'alimentation. On ne peut pas imaginer d'occuper des espaces très importants de la planète pour faire pousser des plantes comme ça, juste pour produire des carburants. Donc il y a une deuxième génération qui a été considérée. Et là, l'idée suivante, c'est de récupérer des parties non comestibles des plantes. Donc ça peut être des résidus agricoles et forestiers, des pailles, des cultures dédiées avec des taillis à croissance rapide qu'on n'utilise pas pour l'alimentation. Et là, c'est très très intéressant parce que ces parties non comestibles, vous voyez, sont très très riches en sucre. Et donc c'est une source très intéressante. Le problème, c'est que ces sucres sont dans des polymères qui sont extrêmement résistants et il est très très difficile. Alors des polymères qu'on appelle cellulose, hémicellulose, il y a beaucoup de carbone dans la lignine. Et tout ça, vous voyez, c'est très riche. C'est ce qui est représenté en jaune ici. Jaune, c'est du glucose. C'est des quantités extrêmement importantes de sucre qui malheureusement sont très difficiles à récupérer. Et donc là aussi, c'est un exemple de domaine dans lequel aussi bien les chimistes que les biologistes essayent d'inventer des procédés pour récupérer le plus de sucre pour la transformation ensuite en éthanol. C'est ce qui est indiqué ici. pour faire des carburants. Donc là, vous voyez, donc on n'est pas en compétition avec l'alimentation, donc c'est quelque chose qui peut être considéré. Et en fait, il y a aussi une troisième génération suivante, c'est l'utilisation de ces fameux micro-organismes photosynthétiques, algues, cyanobactéries. On peut imaginer des champs dans lesquels on fait pousser tous ces micro-organismes et soumis à la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que ces micro-organismes sont capables de produire des quantités extrêmement importantes d'huile qu'on peut récupérer. Ici, vous voyez, par exemple, dans ce petit schéma, en rouge, vous avez les micro-organismes, et en vert, ce sont des gouttes d'huile qui sont excrétées par ces micro-organismes. Donc, assez facile à récupérer, parce que c'est extracellulaire. À partir de champs immenses comme ça, de culture de ces organismes, on peut espérer, en effet, récupérer des lipides et faire des biodiesels. Les rendements sont très bons, et par ailleurs, tous ces organismes-là sont responsables de la moitié de la fixation du dioxyde de carbone sur la Terre, cyclant ainsi. J'en arrive au dernier point, qui est l'hydrogène, et qui est un domaine sur lequel je travaille en particulier, et beaucoup de gens travaillent dans le monde. Alors pourquoi l'hydrogène est intéressant? L'hydrogène est intéressant d'abord parce que, en effet, c'est un carburant. C'est un carburant, c'est-à-dire que quand on l'oxyde, quand on le brûle, entre guillemets, il relargue une quantité très importante d'énergie, plusieurs centaines de kilojoules par mol. Et d'autre part, vous avez la réaction chimique qui est très simple qui est présentée ici. En le brûlant, on ne produit pas de CO2, on ne produit que de l'eau. Et donc c'est un carburant propre d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas de gaz à effet de serre qui vient de cette oxydation. Une chose qui est intéressante, j'ai parlé de densité massique d'énergie, en comparant les batteries, vous vous souvenez, avec le pétrole tout à l'heure. Maintenant, si on regarde l'hydrogène, on est encore mieux, on est à 120 mégajoules par kilo. Vous vous souvenez, les batteries c'était 0,5 et le pétrole c'était 50, donc c'est supérieur. C'est 2,7 fois plus que le pétrole, c'est plus que le gaz et plus que le charbon. Donc de ce point de vue-là, il y a une densité massique qui est très importante. Malheureusement, il y a deux grands problèmes. C'est d'une part que l'hydrogène n'existe pas sous cette forme-là, H2, à la surface de la Terre. Donc ce n'est pas comme le pétrole. Il ne suffit pas de creuser pour récupérer du pétrole et le mettre dans nos voitures. L'hydrogène n'existe pas. Donc il faut le produire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un gaz. Donc maintenant, si je fais un calcul où je calcule plutôt l'énergie volumique, alors là, j'ai un grand problème. Parce que, évidemment, par rapport à un liquide, pour avoir la même quantité d'énergie, je vais avoir un volume très très grand. Donc on ne peut pas imaginer, par exemple, d'utiliser l'hydrogène dans une voiture si c'est un gaz, parce que derrière chaque voiture, il faudrait un camion-citerne. Donc il faut trouver des stratégies pour que cet hydrogène occupe des volumes plus petits. Je n'en parlerai pas, mais ça peut être par condensation, ça peut être par compression, liquéfaction, enfin, etc., etc. Ça peut être par adsorption dans des matériaux. Donc là aussi, on tombe sur une recherche qui concerne énormément les chimistes qui, actuellement d'ailleurs, sont en train d'inventer des matériaux qui ont une capacité d'adsorption des gaz tout à fait impressionnante. Donc, si vous voulez, l'idée maintenant, c'est ce schéma tout simple. Cet hydrogène, si on l'a, ça va être une source d'énergie, mais on ne l'a pas. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut l'avoir. Eh bien, je vais beaucoup parler de cette stratégie qui est d'utiliser de l'eau et du soleil pour produire de l'hydrogène, un petit peu, si vous vous souvenez bien, dans un de mes schémas compliqués, comment certains micro-organismes photosynthétiques prennent du soleil, prennent les électrons de l'eau et les envoient non pas au CO2, mais les envoient à l'eau pour faire de l'hydrogène. Alors, juste un peu d'histoire. C'est en juin 1783 que Lavoisier, Laplace, Meunier, trois grands scientifiques, font un rapport sur la synthèse de l'eau. Et l'eau est définie comme un mélange d'air inflammable et d'air vital. Et évidemment, l'air inflammable, c'est l'hydrogène. Hydrogène qui veut dire produit de l'eau, parce que quand on l'oxyde, il produit de l'eau. Et l'air vital, c'est bien sûr l'oxygène. Et en avril 1784, les mêmes reviennent devant l'Académie des sciences. Oui, ce rapport a été soumis à l'Académie des sciences. Et en 84, ici même, donc, les mêmes présentent un procédé industriel de production d'hydrogène en grande quantité par action de l'eau sur du fer rouge, du fer chauffé, sur l'eau, et ça produit de l'hydrogène. Alors cette idée qu'on pourrait prendre de l'eau, d'une certaine façon, comme carburant, entre guillemets, mais ce n'est pas un carburant l'eau, hein, bien sûr, hein, si vous mettez de l'eau dans votre véhicule, il y a peu de chances que ça marche. Donc l'eau n'est pas un carburant. Par contre, l'eau peut être utilisée pour stocker l'énergie solaire si on arrive à transformer l'eau en hydrogène. Alors cette idée-là, Jules Verne l'avait déjà senti, vous voyez, il y a très longtemps, au 19e siècle. Dans l'île mystérieuse, on peut lire la chose suivante. Pencroff pose la question, et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon? Donc vous voyez déjà à ce moment-là, il y a cette question que le charbon n'est pas en quantité illimitée. Et il y a Cyrus Smith qui répond, l'eau. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Alors, Ainsi, donc, rien à craindre. Donc, très optimiste, hein, Jules Verne. Et puis, en même temps, un petit peu faux. Parce que, évidemment, à nouveau, c'est pas l'eau qui sera un jour utilisée comme combustible. Mais ce sont les atomes d'hydrogène qui sont dans l'eau, qui seront convertis en hydrogène H2 grâce à la conversion de l'énergie solaire en hydrogène qui constituera la source d'énergie. Alors, l'hydrogène, je vous ai simplement dit jusqu'à maintenant, on le brûle. En fait, il y a une autre façon d'utiliser l'hydrogène, c'est de le faire fonctionner comme un carburant dans une pile à combustible, dans une pile, aussi appelée pile à hydrogène, pile à combustible, où là, on convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Vous avez des dispositifs dans lesquels vous avez de l'hydrogène qui arrive. Sur l'anode, cet hydrogène donne des électrons. Ces électrons partent dans le circuit et donc peuvent être utilisés, ce courant électrique, et finit à la cathode où ils réagissent avec l'oxygène. C'est cette équation pour donner de l'eau. Le bilan de ces deux réactions, c'est à nouveau celle que je vous ai présentée. Donc, par ces piles-là, on peut, si on a des grosses quantités d'hydrogène, transformer cet hydrogène en énergie électrique. Et c'est bien ce qui se passe dans des véhicules qui ont des piles à hydrogène. C'est de l'électricité qui les fait fonctionner, mais c'est grâce à la conversion de l'hydrogène en énergie électrique. Alors, très bien, donc l'hydrogène fonctionne comme carburant. C'est une source intéressante. Comment le produire? Parce qu'on n'en a pas. Alors, il faut savoir aujourd'hui, bon, il y a de l'hydrogène dans les laboratoires, dans l'industrie, on utilise de l'hydrogène, il y a des tas de processus industriels qui utilisent de l'hydrogène. En fait, aujourd'hui, presque 90% de notre hydrogène dans l'industrie est produit par cette réaction qu'on appelle réaction de reformage. Et regardez ce qui se passe, on utilise des hydrocarbures. Ici, c'est du méthane qu'on fait réagir à haute température avec des catalyseurs et c'est une réaction qui demande beaucoup d'énergie. Le méthane réagit avec de l'eau pour donner de l'hydrogène. Mais ça, c'est pas très satisfaisant, vous voyez bien, parce qu'il faut des hydrocarbures, or on veut s'en débarrasser. On peut pas fonder une future société sur l'hydrogène à partir d'une production qui dépend des hydrocarbures. Donc il faut trouver autre chose. Et par ailleurs, ce processus produit du dioxyde de carbone, gaz à effet de serre qu'il faut éviter. Donc il faut arrêter ça. Et donc il y a tout un tas de stratégies de production d'hydrogène, essentiellement donc à partir d'énergies renouvelables, ou à partir de la biomasse. Je ne détaille pas, mais il y a beaucoup de recherches là-dessus. En particulier, à partir de cette énergie solaire, hydroélectrique, éolien, on peut faire de l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on transforme. Donc maintenant, c'est plus du méthane qu'on prend, mais c'est uniquement de l'eau. Et cette eau, on peut la transformer en hydrogène par des réactions d'électrolyse. On peut aussi faire des réactions de photolyse, comme le font les micro-organismes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire en mettant simplement de la lumière, de l'eau, pour produire de l'hydrogène. Et je vais, pour terminer, parler un peu d'électrolyse. Pourquoi on utilise uniquement cette méthode de reformage? C'est bien sûr parce que ça coûte moins cher aujourd'hui. Et que, évidemment, pour que les autres technologies qui sont disponibles soient utilisées, il faut y travailler. Et là encore, c'est les chimistes, les physiciens, la recherche sur les matériaux, la recherche sur les électrodes, la recherche sur l'utilisation efficace des énergies renouvelables, qui va conduire à baisser les prix, mais on est encore un peu trop haut. Là, c'est pareil, c'est un facteur entre 5 et 10 qu'il faut diminuer pour utiliser toutes ces sources d'hydrogène alternatives. Et pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc, il faut travailler. Oui, bon, l'électrolyse. Ça, c'est un procédé qui est connu dans l'industrie, qui marche bien. Vous avez deux électrodes, vous appliquez une tension aux bornes de ces deux électrodes. Eh bien, l'énergie fournie par cette tension conduit à des dégagements de bulles d'un côté et des dégagements de bulles de l'autre. Et ce que vous voyez, c'est que d'un côté, il y a de l'hydrogène et de l'autre côté, il y a de l'oxygène qui sort. Donc, en appliquant une énergie électrique, on a transformé de l'eau en oxygène d'une part et en hydrogène d'autre part. Donc, à nouveau, si on prend le soleil, qu'on le convertit en énergie électrique photovoltaïque et qu'on prend un électrolyseur qui fonctionne comme je viens de vous le dire, avec des rendements qui sont en général assez bons, eh bien on est capable de convertir l'énergie solaire en hydrogène. D'accord ? En couplant photovoltaïque et électrolyseur. Alors j'aimerais vous faire comprendre que la chose suivante, qui est très très importante pour moi, qui est qu'aujourd'hui on a des solutions. Elles coûtent trop cher, ça j'ai été clair, il faut travailler pour diminuer les coûts. Mais on a des solutions. On a des technologies qui existent, il n'y a pas besoin de les inventer. Il y a le soleil et on a le photovoltaïque qui peut nous transformer le soleil en électricité. On a des électrolyseurs, ça existe. Donc cette électricité, on peut l'utiliser pour casser l'eau en oxygène et en hydrogène. On a des piles à combustible, des piles à hydrogène, où maintenant on prend l'hydrogène et on retransforme cet hydrogène en électricité si on en a besoin. Et ce faisant, dans cette dernière étape, on produit de l'eau. Alors, est-ce que tout ça est possible? Alors, la réponse aujourd'hui, c'est non sur le plan du coût. Il faut diminuer les coûts de toutes ces affaires-là. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ici, vous avez une maison dans un pays, par exemple, comme la France, d'une famille. Vous imaginez des panneaux photovoltaïques sur cette maison. Vous imaginez dans la cave de cette maison un électrolyseur, c'est-à-dire que quand l'électricité produite est utilisée, elle est utilisée. Par contre, l'excès d'électricité peut aller dans cet électrolyseur et vous produisez de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Vous décomposez l'eau. Donc vous avez un bidon d'eau ici. Ensuite, lorsqu'il fait nuit, cet hydrogène, vous allez pouvoir l'utiliser comme source d'énergie si vous utilisez une pile à combustible. Hydrogène plus oxygène redonne de l'eau et de l'électricité pour la maison, pour la voiture, etc. Ça a plusieurs implications, ça. C'est que, vous voyez, on est en train d'imaginer un monde dans lequel chacun est autonome. Chacun est à la fois producteur et consommateur de son énergie. Il n'y a pas besoin d'aller à une pompe à essence, ou il n'y a pas besoin d'une infrastructure qui nous couple à une centrale nucléaire. Bon, tout ça, c'est pour le moment théorique, mais voilà un monde dans lequel on peut aller. Mais est-ce que c'est réaliste, ça? Faisons un petit calcul. Cette maison, je prends un pays comme la France, qui consomme de l'ordre de 3000 kWh par an par famille. Je crois que c'est hors chauffage, mais bon. 3000 kWh par an par famille. On sait quelle est l'énergie qui est libérée par une molécule d'hydrogène. Je vous l'ai dit, c'est 33 kWh par kilo. Donc pour ça, ça fait 0,5 kg d'hydrogène par jour qu'il faut produire. Alors pour avoir cette quantité-là, combien il faut électrolyser d'eau? Alors est-ce que c'est 100 litres, 1000 litres, 10 000 litres, ce qui ne serait pas raisonnable? Non, la réalité c'est que comme on sait ce qu'il y a dans l'eau, eh bien c'est 2,3 litres d'eau. Une famille avec deux bouteilles d'eau a l'énergie qu'il faut pour vivre une journée. Si vous prenez des pays qui consomment beaucoup moins d'énergie, c'est des toutes petites quantités d'eau. Et alors pour électrolyser cette eau-là, il faut de l'énergie électrique. Ça fait quelle surface de panneaux voltaïques aujourd'hui? Est-ce que ça fait 1000, 10 000, 100 000 mètres carrés? Ce qui ne serait pas raisonnable? Non, une cinquantaine de mètres carrés. Donc tout ça est faisable. On a les technologies. Il faut faire de la recherche pour en diminuer le coût, trouver les bons matériaux, plus stables, moins chers, plus efficaces. Les chimistes jouent un rôle là-dedans. Mais comme vous pouvez le voir, c'est assez raisonnable. Voilà, bon, peut-être je peux m'arrêter là parce que là je vais rentrer dans une problématique qui devient un petit peu pointue et je crois pas que ce soit nécessaire parce que là je vais commencer à raconter un peu dans le détail quel type de matériaux il faudrait. On peut peut-être en discuter si vous avez des questions pour résoudre un certain nombre de problèmes de ces technologies. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie.
C'était Marc Fontecave, chimiste spécialiste international de la chimie bio-inorganique, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. Il s'exprimait face à un public de lycéens dans le cadre de la Fête de la Science 2011, conférence organisée à l'Institut de France. Restez à notre écoute en téléchargeant sans plus tarder nos émissions en compagnie de Marc Fontecave et son collègue Vincent Artero. Ils abordent la place de l'hydrogène comme possible vecteur d'énergie. Et puis plus généralement, bien sûr, vous pouvez écouter nos émissions consacrées aux énergies. Quelles énergies à l'horizon 2200 ou encore énergie du futur, les choix et les pièges. Merci de votre écoute et à bientôt sur canalacademy.com.